Luc, chapitre 13, au verset 23. Et c'est vrai que c'est une question qui tient debout vraiment. Luc 13, 23. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Ce n'est pas une question que nous nous posons, ça hein, sérieusement. On pourrait se dire quand même, Dieu donne la paix, Dieu donne les fleuves d'eau vive, Dieu donne la grâce d'être désaltéré, Dieu donne le pardon, vous vous rendez compte, rien que le pardon. Dieu donne l'espérance, la consolation, etc., etc. Et la question, elle est là, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Alors, une des réponses, elle est dans Jean, quand Jésus a dit, moi je sais que c'est un des premiers versets qui m'a touché dans la Bible, quand Jésus a dit, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est Jésus qui le dit. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Nous allons aller dans la Genèse. Nous allons voir l'histoire d'un homme que Dieu voulait épargner. Est-ce que Dieu veut épargner les gens, d'après vous? Ouais. Dans la Genèse, alors c'est vrai que son tonton, Abraham, priait vraiment. Parce que lui, il était au courant que le jugement de Dieu allait venir. Il était au courant. Son neveu Lot ne le savait pas, lui, il vivait dans une ville perverse. Et à un moment donné, nous allons voir ce qui s'est passé. Quand Dieu avait décidé d'envoyer le jugement. Genèse chapitre 19, verset 10. Nous allons lire et nous allons regarder comment Dieu s'y est pris pour sauver un homme qui était quand même en difficulté au niveau de la communion avec Dieu. Genèse 19, verset 11, 10. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. C'était des anges en vérité. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour la détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Amen. Nous avons là une histoire qui aide bien à comprendre la prophétie. Il y a des gens qui sont convaincus que Jésus va revenir, les chrétiens. Ils savent que le jugement va venir sur la terre. Il y a des croyants, des chrétiens, puisque Lot était un croyant, qui ne le savent pas, qui n'y pensent pas, qui ne s'en préoccupent pas. Si nous sommes ce soir venus dans sa maison, c'est parce que nous aimons le Seigneur et parce que nous voulons qu'il nous parle. Dieu aime parler. Dieu aime convaincre. Dieu aime toucher les cœurs. Dieu aime épargner les gens. Alors c'est vrai que Lot, il fait partie de la généalogie de Jésus-Christ. Donc c'est facile à comprendre que le Seigneur voulait l'épargner. Mais dites-moi, est-ce que Dieu ne veut pas vous épargner aussi? Est-ce que Dieu ne veut pas toucher les gens? Est-ce que Dieu ne veut pas les interpeller? Est-ce que Dieu n'est pas capable de faire autant que ce qu'il a fait pour l'autre? Parce que des oncles, des parents, des amis prient pour vous. Je crois que ce texte, entre autres, encourage les chrétiens à prier pour les membres de leur famille qui ne sont pas prêts. Et si on pouvait faire une parenthèse dans cette exhortation, c'est bien de prier pour les membres de nos familles qui ne sont pas encore prêts. Parce que quand même Abraham avait cette communion avec Dieu. D'ailleurs, on le voit, si vous avez votre Bible ouverte au chapitre 18, cet homme qui était dans l'alliance avec Dieu, quand même Dieu posera une question, Genèse 18, verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Voilà, Dieu pose la question, est-ce que je cacherai à mon serviteur ce que je vais faire? Et c'est vrai que les chrétiens savent, par la parole de Dieu, ce que Dieu va faire. Ils savent même où ils habiteront, ils savent même une partie du menu des noces de l'agneau. Oui ou non? Est-ce qu'il n'y a pas parlé de certains mets succulents et des vins clarifiés, etc. Est-ce qu'il en est parlé? Même des vêtements que l'on portera. Vous voyez, vous allez me dire, mais monsieur Gros, c'est pas important ça. C'est vrai que c'est pas important. Mais le Seigneur, dans sa grande bonté, nous a dit certaines choses. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'espérance. Parce que nous sommes dans un monde tellement malade, tellement compliqué. Déjà, quand on voit ce qui se passait du temps de Lot, quand on voit la perversité qu'il y avait dans ces villes, les abominations qu'il y avait dans ces villes, et ce sont ces choses-là qui ont attiré le jugement de Dieu. Et ce n'est pas la peine d'être un grand spécialiste des prophéties ou un grand théologien ou un prophète pour comprendre que le jugement va toucher notre terre. La colère de Dieu va venir sur la terre. Alors, en parler trop ou pas assez, je ne sais pas comment il faut en parler, mais nous savons que la colère de Dieu va frapper la terre, mais que la grâce est là. Alléluia. Ce soir, les cantiques que nous avons chantés, eh bien, nous encourage à réaliser que la porte n'est pas encore fermée. Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, 29 août 2019, n'importe quel homme sur la terre peut rentrer dans le royaume de Dieu, peut revenir dans le royaume de Dieu, peut revenir dans le royaume de Dieu, même s'il a fait plusieurs va-et-vient, qui est un jeu extrêmement dangereux, parce que, comme on l'a entendu, si aujourd'hui nous entendons sa voix et que nous n'obéissons pas, eh bien notre cœur peut s'endurcir. Donc cette histoire, elle est là. La prophétie que nous avons lue dans l'évangile de Luc, elle est également là, à savoir qu'un jour, le maître de la maison, et le maître de la maison dans cette prophétie, c'est Dieu lui-même. Il sait quand est-ce qu'il va fermer la porte. C'est quelque chose, ça. Et c'est vrai que même parmi les chrétiens, on trouve aujourd'hui beaucoup de moqueurs. Déjà, du temps de l'apôtre Pierre, il y avait des moqueurs qui disait, mais où est la promesse de son avènement depuis le début? On dit qu'il va revenir. Déjà, il y a 2000 ans, les gens se moquaient de ce que Jésus n'était pas encore revenu. J'avais vu, il y a quelques années de cela, une émission à la télévision avec des spécialistes. Vous savez, il y a longtemps de ça, c'est quand on avait prévu la fin du monde en 2012, je crois. Et il y avait une émission, et j'avais voulu le regarder, il y avait un spécialiste des prophéties bibliques, qui ne connaissait rien d'ailleurs, il n'y connaissait rien. Et bien sûr, lui, il se moquait. Il se moquait de Jésus, puisque Jésus disait dans l'Apocalypse, « Je viens bientôt », et il parlait de lui d'une manière très très méprisante. Vous vous rendez compte, ce Jésus a dit il y a 2000 ans qu'il venait bientôt. Vous comprenez bien que tout ça c'était des mensonges, et il n'est jamais venu, et tout ça c'est que des bêtises, etc. Mais la parole de Dieu nous enseigne que pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Et qu'un jour pour Dieu est comme 1000 ans. C'est très 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 bizarre cette parole. Ça veut dire que pour Dieu le temps n'existe pas, qu'il n'est pas dans le temps, mais en même temps, en une journée, il peut faire des choses extraordinaires, ce que les hommes pourraient faire 1000 ans. Ça vous rassure ou pas? Oui, ça doit vous rassurer, parce que Dieu est tout puissant. Il s'appelle El Shaddai, il est tout puissant et il savait comment faire pour envoyer dans sa bonté des anges dans cette ville blindée de misère et de péché. Le Seigneur a envoyé des anges pour protéger une famille. Gloire à Dieu. Cela nous encourage à prier. Nous sommes dans une maison de prière et je voudrais vous encourager à dire, Seigneur, sauve ma famille. Parce qu'on a des gens dans la famille, des parents, des neveux, des nièces, des gens que nous aimons. Il y a des gens qu'on aime. Si on vous demande ce soir de prier pour les gens du Laos, vous allez prier pour eux. Mais en fait, je veux dire, vous n'avez pas d'attachement. Mais il y a des gens que l'on aime. Et je sais qu'Abraham, il aimait cette famille. C'est pour ça qu'il avait calculé son coût, excusez-moi l'expression, quand il a pris le jugement, il a dit, mais s'il y a 50 justes dans cette ville, je te connais Seigneur, tu ne vas pas détruire cette ville s'il y a 50 justes. Vous connaissez la grosse discussion qu'il y a eu entre Dieu et Abraham. Quelle grâce d'avoir un Dieu miséricordieux. Oui, le jugement va venir. La porte est ouverte, mais elle va bientôt se fermer. Quand est-ce qu'elle va se fermer? Est-ce que quelqu'un connaît la date? Si vous la connaissez, quand même, je vous mettrai dans la catégorie des faux prophètes. Parce que personne ne peut savoir son heure. Mais une chose est sûre, il va revenir. Et je crois que ce que Dieu a fait là, il est capable de le faire pour des millions de gens. Vous le croyez ça? Que Dieu est capable, la veille de l'enlèvement, c'est ça la puissance de Dieu, d'interpeller des gens, d'interpeller des neveux, d'interpeller des nièces, d'interpeller des oncles, d'interpeller des parents, de les interpeller juste à temps. Vous avez vu que, bon, c'est sûr, les anges, ils l'ont pris par la main. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? C'est drôle, non? Vous ne trouvez pas ça bizarre? Les anges ont pris Lot par la main parce qu'ils ne voulaient pas sortir. C'est sûr que quand on a accumulé peut-être du matériel, je ne sais pas comment ça marche dans le cœur des gens. En tous les cas, ils ont tout fait pour le sortir. Et il est sorti. Après, c'est sûr que sa vie, quand on voit la vie de Lot, on se pose beaucoup de questions, mais pourtant Dieu voulait le sauver. Je reviens à ma prophétie de Luc, cette question de cet homme, pourquoi a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? C'est vrai que les hommes, ils sont bizarres, les hommes. Vous ne trouvez pas que les hommes sont bizarres? La porte est ouverte, ils ne veulent pas rentrer. Et quand la porte sera fermée, ils voudront rentrer. Avouez que le cœur de l'homme, il est vraiment compliqué. Alors c'est vrai qu'il y a de l'aveuglement, c'est vrai qu'il faut faire des efforts, car le seul conseil que Jésus donne dans cette prophétie, qui est une des prophéties les plus terribles du Nouveau Testament, le seul conseil qu'il donne, efforcez-vous d'entrer. Vous ne trouvez pas ça étonnant? Juste un conseil, alors que la tragédie se présente, alors que la colère de Dieu va venir, le seul conseil que Dieu donne, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, tiens, si vous aviez tout pouvoir dans le ciel et sur la terre? Qu'est-ce que vous auriez fait? Vous ne les auriez pas forcés, vous? Est-ce que vous ne les auriez pas forcés, les gens? Dites-moi, Jésus ne force personne. C'est à nous de faire des efforts. Efforcez-vous. Moi, c'est une parole qui m'a toujours bouleversé. Parce que moi, je ne sais pas, ce que je vais dire, ce n'est pas intelligent, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Moi, il me semble que si j'aurais été le Seigneur, ce que je dis, c'est ridicule. J'aurais dit, mais moi, je vais vous forcer, je vais les forcer à entrer. Je sais que le maître de la maison va fermer les portes, je vais les forcer. On ne peut forcer personne. Nous ne pouvons forcer que nous-mêmes. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Quelle grâce d'entrer! Quelle grâce d'entrer! Quelle grâce d'entrer! Je relis la Genèse et je lisais quand, avant le déluge, avant que Noé et sa famille rentrent, les animaux sont rentrés de part d'eux quand même. Les voisins, ils ont dû se dire, il y a un truc qui va se passer là. Ça n'a rien fait. Personne n'est rentré. Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Que pendant 100 ans, où Noé a construit l'arche, il a dû discuter des milliers de fois, vous vous rendez compte, 100 ans, avec des voisins, avec des charpentiers, parce qu'il a fallu la construire, cette arche, il a fallu du bois, etc. Il a dû se faire aider même par des gens pour placer certaines poutres maîtresses, etc. Personne n'est rentré. Et la Bible dit, Jésus dit, que ce qui s'est passé du temps de Noé, ça se passera de même. La même chose. Les gens seront des moqueurs. Les gens penseront à une plaisanterie. Vous avez vu les gendres de Lot? Je ne sais pas si Lot parlait souvent de Dieu à ses neveux, à ses gendres. Dans la famille, vous savez, les gens, ils chrétiens, ils ne parlent pas. Moi, j'ai des gendres, j'ai des belles filles, et on parle du Seigneur, on parle de Jésus, on parle des cultes, on parle de la parole, on parle de certains cantiques, etc. Mais quand les gendres ont entendu Lot dire, vous ne savez pas, Dieu va détruire la ville, ils ont cru qu'il plaisantait. C'est une des seules fois dans la Bible où je crois ce mot est utilisé. Une fois, je crois, avec Abraham et Sarah, ils plaisantaient. Vous savez, il y a un temps pour rire. Vous aimez rire ?
Est-ce que vous aimez rire ?
Ben oui. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Ça vous est déjà arrivé de pleurer ? Ben oui, c'est normal. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour jeter des pierres, pour ramasser des pierres, il y a un temps pour déchirer, il y a un temps pour coudre, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire, mais je pense qu'il n'y a pas de temps pour plaisanter avec les choses de Dieu. On ne rit pas avec la parole. On ne rit pas avec la sainte parole. On ne rit pas avec les prophéties, les avertissements, les promesses, avec tout ce que Dieu nous a laissé. La porte va se fermer, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. En plus, l'adverbe que Jésus utilise, beaucoup, montre qu'il y aura beaucoup de gens qui ne seront pas prêts. Parce que les gens ne s'intéressent pas, parce que pour beaucoup de gens, mais l'enlèvement de l'Église, c'est vrai que l'enlèvement de l'Église, la résurrection des morts, tout ça, c'est quand même quelque chose d'un peu, c'est quand même un peu virtuel pour beaucoup de gens. Vous ne croyez pas ? En un clin d'œil, en un instant, les corps qui vont ressusciter, des millions de gens qui ont disparu vont réapparaître, le corps va ressusciter pour rejoindre l'âme dans le ciel. C'est quelque chose presque qui pourrait nous faire rire. Nous, les chrétiens, si on est encore vivants, on va être transformés comme Jésus-Christ. On va être transportés dans le ciel. Il y a de quoi plaisanter. Est-ce que vous comprendriez que des gens plaisantent de ces choses ? Est-ce qu'il y a de quoi ? Oui, moi je comprends. Parce que moi, la première fois qu'on m'a dit qu'un jour Jésus allait revenir, j'ai regardé la personne et j'ai cru franchement qu'elle avait un petit problème. J'ai dit vraiment. Je me souviens, ça m'a fait rire. J'ai dit, mais la pauvre femme. Vous voyez, quand on n'est pas touché par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça ne me fait pas rire du tout. Je sais que ça sera une des choses les plus merveilleuses qui va exister parce que la colère de Dieu va venir, parce que les gens ne veulent pas de la grâce. Y a-t-il que peu de personnes qui soient sauvées ? Beaucoup chercheront à entrer quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Je ne sais d'où vous êtes. Est-ce que le Seigneur connaît tout le monde, au fait ? Et pourtant, il leur dit, je ne sais d'où vous êtes. Ça veut dire que Dieu n'a pas eu de communion. Ça ne veut pas dire que Dieu connaît tout le monde. Dieu peut croiser n'importe qui sur la surface de la terre et dire, tu t'appelles Jacques, Paul, Brigitte, etc. Dieu connaît tout le monde. Mais quand Dieu dit, je ne sais d'où vous êtes, ça veut dire, je ne t'approuve pas. Je n'ai jamais eu de communion avec toi. Et s'il y a bien une chose que la parole de Dieu doit provoquer, comme ce soir, c'est dire, Seigneur, je ne comprends pas toutes ces choses. Moi aussi, j'ai plein de questions à te poser, avec beaucoup de respect. J'ai beaucoup de questions à te poser. C'est sûr que cet homme qui voyait tous les miracles, en plus à l'époque, tous les miracles que Jésus faisait, toutes les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. En plus, il a dit, je suis venu proclamer une année de grâce. Mais le problème, c'est que cette année de grâce, elle s'achève. Et les gens, et Jésus disait, mais comment ça se fait qu'il y a si peu de gens ? Alors les gens venaient pour des miracles, les gens venaient pour des bénédictions. Mais vous savez, c'est une chose d'aller dans une église pour une grâce que Dieu ne nous refusera pas. C'est une chose d'aller dans une église pour une guérison que Dieu veut nous accorder. C'est une chose de venir dans une église pour le salut de son âme. Et pour dire, moi, bénédiction ou pas, guérison ou pas, que tu pourvoies ou pas, je veux rencontrer Dieu, me préparer à te rencontrer. Et il y a des gens qui s'imaginent que parce qu'ils ont été à l'église, vous voyez, d'ailleurs ces gens-là qui frappent, bien sûr c'est qu'une parabole, enfin c'est une parabole, c'est une prophétie, c'est surtout une prophétie. Mais on a mangé avec toi, vous rendez compte, manger avec le Seigneur, vous n'auriez pas aimé vous manger, prendre un repas avec le Seigneur Jésus ? Dites-moi franchement, ça ne vous aurait pas fait plaisir de prendre un repas avec le Seigneur Jésus ? Vous n'auriez pas aimé ? Dire à votre femme, écoute chérie, j'ai réussi à inviter le Seigneur Jésus-Christ, il vient manger samedi à la maison. Il vient avec les 12 apôtres, tant pis, prépare. C'est une bénédiction. Nous avons mangé et bu avec toi. Tu as enseigné dans nos rues, dans nos rues. Et le Seigneur dit, je ne vous ai pas connu. Ça nous met devant notre responsabilité. Ce n'est pas d'être chrétien, d'aller dans une église, de faire des trucs, de participer même à certaines réunions qui fera que nous serons sauvés. Nous serons sauvés parce que nous serons passés par la repentance. Et toutes les fois où des gens ont demandé « Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé ?» Vous avez à coup sûr cette pensée qui revient continuellement. Repens-toi. Repens-toi. Convertis-toi. Alors ce sont des mots, c'est vrai qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais ce sont des mots que l'on doit prêcher. Les pasteurs ont cette responsabilité. Ce matin, je priais, j'avais ce verset qui venait sur mon cœur, quand Dieu dit que les pasteurs, ils veillent sur les âmes dont ils devront rendre compte. Et moi, je ne suis pas là pour vous parler de la sécheresse en Amazonie, ce que des hommes de Dieu peuvent faire, parce que ça, c'est des sujets d'actualité. Moi, bien sûr que j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de sécheresse en Amazonie. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que vous soyez prêts à rencontrer Dieu. Car vous ne savez pas ce qui vous arrivera. Je vous avais raconté cette histoire, un pasteur, ils étaient devant à la réunion de l'après-midi, un dimanche après-midi, ils attendaient, il n'y avait pas grand monde comme nous cet après-midi. Et il y a un jeune qui est arrivé avec sa moto, ils étaient devant l'église, un jeune qui avait 18 ans, disait, avec sa moto, il a fait un petit chassé, là, vous savez, avec sa moto, il a fait le malin. Et puis, il a dit, c'est vous le pasteur? Oui. C'est où l'enfer? Et le pasteur, il a dit, c'est tout droit. Et le gars, il est parti avec sa moto, il est tombé dans le virage, et il est mort. Vous voyez comment la vie est drôle, hein? Il y a des choses bizarres dans la vie. Et quand la Bible dit, mais prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, nous devons nous préparer à le rencontrer. Je termine avec cette parole qu'il n'y a que Jésus qui l'utilise, on l'a lu donc dans cette prophétie. Moi, c'est une parole qui m'a fait beaucoup réfléchir pendant ma conversion. Car je savais que je voulais être chrétien, je ne savais pas que je serais pasteur, mais je savais que je deviendrais chrétien. Et c'est une expression qu'il n'y a que Jésus qui l'utilise, cette fois, 6 fois dans Matthieu et 1 fois dans Luc, quand Jésus dit, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous pleurions. Il y a des sujets qui nous font pleurer, c'est une chose ça. Parce que quand vous lisez l'Apocalypse, vous voyez bien que dans les cieux, il est dit qu'il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de cris, plus de douleurs. Notre monde est rempli de ces choses. Et quelle espérance de savoir qu'un jour, toutes ces choses seront définitivement finies. Et là, nous voyons hélas cette conséquence terrible de ne pas avoir pris au sérieux cette affaire d'entrer tant que la porte était ouverte. Moi, je ne sais pas. Moi, franchement, je vous le dis. Est-ce qu'elle sera ouverte demain? Est-ce qu'elle sera ouverte dans un mois? Est-ce qu'elle sera ouverte après la fête des trompettes en fin septembre en Israël? Est-ce que la fête des trompettes pourrait suggérer que c'est à ce temps-là que le Seigneur pourrait revenir à cette fête des trompettes? On ne peut pas savoir. En tous les cas, que le Seigneur revienne à telle fête, qu'il revienne demain ou qu'il revienne dans 20 ans, une chose est certaine, nous devons tous nous préparer. Et la parole de Dieu n'a que ce but. Les cantiques n'ont que ce but. Paul dit, entretenez-vous, instruisez-vous par les cantiques. Les cantiques sont là pour nous instruire. Et les cantiques que nous avons chantées nous instruisent également dans ce sens. Ces moments nous permettent de prendre au sérieux. Et moi, je termine avec le même conseil que Jésus a utilisé. Il dit, efforcez-vous. C'est toi qui dois te forcer. Ce n'est pas moi qui dois forcer un tel ou un autre. On ne peut pas forcer quelqu'un. Si on pouvait forcer les gens, si on pouvait les convertir, vous aimeriez pouvoir convertir les gens? C'est-à-dire vous donner 5 000 euros, paf. Chaque fois que vous donnez 5 000 euros, quelqu'un se convertit. Vous le feriez? Moi, je le ferai. Je vous hurlerai. Non, je blague. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Si on pouvait convertir les gens en payant, vous ne le feriez pas? Moi, je le ferai. Mais on ne peut pas. C'est gratuit. C'est pas payable. C'est chacun qui doit faire l'effort. Efforcez-vous. Efforce-toi. Fais des efforts. Applique-toi. Prends la parole. Relis les évangiles. Je discutais avec un chrétien qui me dit, il était étonné que je lisais la Bible. Parce que je suis converti depuis 38 ans, il me dit, mais vous lisez la Bible? Vous ne l'avez pas lu une fois? J'ai dit, mais plusieurs fois je la lis, je l'ai lu. Il me dit, mais pourquoi vous la lisez deux fois, puisque vous l'avez déjà lu une fois? J'ai dit, mais c'est comme du pain. Et lui, il pensait qu'il fallait la lire une fois que c'était fini. Et je crois que s'efforcer, c'est dire, tiens Seigneur, montre-moi toutes les prophéties qui parlent de ton retour. Ça ne vaut pas la peine de s'arrêter sur toutes les fois où Jésus parle de son retour. Je crois qu'il y a 136 textes dans le Nouveau Testament qui parlent de l'enlèvement. Et deux, uniquement deux, qui parlent du retour. Pourquoi? Eh bien parce que les chrétiens, ils sont concernés par l'enlèvement. Alléluia. Efforce-toi. Le Seigneur Jésus a tout accompli. Il a donné sa vie sur le bois de la croix. il a versé son sang, c'est certainement les trois mots les plus importants qui aient jamais été prononcés sur la terre. Tout est accompli. C'est certainement la phrase la plus importante qui a jamais été prononcée sur la terre. Des fois, on dit, ah, j'ai entendu moi, des politiciens dire, oh, le discours du mois de juin de Charles de Gaulle, après, pour la guerre, pour la fin de la guerre, c'était un des meilleurs discours qui a été. Moi, je crois que le plus grand discours, c'est les trois mots de Jésus sur la croix. Tout est accompli. La porte est ouverte. Alléluia. Eh bien, je vais faire des efforts. Je vais reprendre les Écritures. Chaque fois qu'il est parlé de la croix, je vais regarder ce que Dieu me demande par rapport à la croix. Qu'est-ce que c'est le sang de Jésus qui me purifie? Ah, pour entrer dans le ciel, c'est pas par les œuvres. Non, c'est pas par les œuvres. C'est pas par ceci ou par cela. Non, c'est quoi? Par la repentance. Repentez-vous, convertissez-vous, et des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. Et dans ces temps difficiles, je crois que c'est bien d'espérer dans de rafraîchissement. Comme Antoine nous le rappelait, Jésus a dit à la Samaritaine, mais il a dit à la fête des tabernacles, si quelqu'un a soif, pour ne pas reprendre le même texte, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alors on ferme les yeux et on répond à cette parole. Répondez-lui par des remerciements, par une attitude de cœur vraie, par un comportement spirituel. Ne plaisantez pas. Les gendres, ils ont dû le regretter, vous savez, 2 ou 3 heures après, de plaisanter. Ne plaisantez pas avec ces choses. Efforce-toi, mon frère. Efforce-toi, ma sœur. Efforce-toi. L'entrée, la porte, elle est ouverte. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous te bénissons, Seigneur. Oui, nous aussi, comme cet homme, nous nous posons la même question. Pourquoi il y a si peu de gens, Seigneur, qui sont sauvés? Nous le savons par ta parole que les hommes préfèrent les ténèbres, mais nous qui sommes venus dans ta maison, nous choisissons de préférer la lumière pour l'éternité, Seigneur. Nous n'avons pas envie de connaître les ténèbres pour l'éternité. Nous voulons cette lumière que nul homme encore n'a pu voir, inaccessible, cette lumière dans la nouvelle Jérusalem, cette vie de grâce et de paix, sans pleurs et sans grincement dedans. Nous te remercions, Seigneur, pour ta sollicitude et pour ta bonté. Oui, tous ici présents, nous voulons chacun, et moi le premier, faire les efforts qui doivent être faits, que je dois faire, pour continuer la route avec toi. Merci pour les prophéties, merci pour les promesses, merci pour les commandements, merci pour les avertissements, merci pour toutes les paroles d'encouragement, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur. Oui, merci de ce que tu as ouvert la porte. Et donne aux milliers de fils prodigues dans ce pays, peut-être aux dizaines de milliers de fils prodigues, de rentrer avant que la porte ne se ferme définitivement. Nous te prions pour la ville de Toulouse, et comme Abraham t'a prié pour son neveu, nous te prions pour nos familles, Seigneur, pour tous les membres de nos familles. Nous voudrions que par ta divine puissance, par des anges ou d'autres moyens à ta disposition, tu puisses les sortir du jugement avant qu'il ne soit trop tard. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Que ta volonté soit faite. Merci, Seigneur Jésus. Amen.